Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France sur CNews avec Franck Ferrand, Marc Benant, chapitre 61, la libération. La libération, et on verra dans cette émission la libération de la Corse, la campagne d'Italie, le débarquement en Normandie, la libération de Paris, les tribunaux de la libération avec la traque des collabos. Voilà pour le sommaire, ravi de vous retrouver messieurs, mon cher Marc. Mon cher Franck, c'est un plaisir.
Alors, tout le plaisir est pour nous. Nous sommes très égoïstes.
Partagé. Vous savez que pour cette émission, vraiment très régulièrement, des téléspectateurs vont sur cnews.fr regarder nos anciennes émissions pour suivre et montrer à leurs enfants. Donc je vous félicite
en tout cas. Sur le site, il faut le dire.
Sur le site, exactement.
Sûr, hein.
Je vous félicite en tout cas pour tout le chemin parcouru, pour ces 61 émissions. Voici la 61e. Franck, la dernière fois, on avait vu le duel entre le général Giraud, le général de Gaulle. On avait vu comment s'organisait la résistance et les institutions de la France libre. La guerre a-t-elle basculé depuis la fin de 1942?
Ah oui, depuis novembre 1942. Vous vous rappelez, c'était ce débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, cette opération Torche qui avait beaucoup marqué les esprits, qui a fait basculer la guerre, en tout cas pour cette région de l'Europe. Les Allemands ont profité de ce débarquement pour aller jusqu'au bout de l'invasion française. Ils ont franchi la ligne de démarcation, envahi la zone libre. À partir de la fin de 1942, on entre dans une autre phase de la guerre. Et les Alliés ne vont pas se contenter de l'Afrique du Nord, bien entendu. Vous vous rappelez d'ailleurs que le gouvernement de Londres s'était installé à Alger et que depuis Alger, on était déjà en train de penser à l'après-guerre, à la libération, justement. Alors, pour que cette libération soit possible, il fallait des débarquements. Il va y en avoir en Sicile, un débarquement. Il va y avoir une libération de la Corse, très important cette libération de la Corse, c'est en octobre 1943, on voit à ce moment-là le premier département métropolitain libéré. Et puis le corps expéditionnaire français, parce qu'on a des Français qui participent à toute cette campagne d'Italie, vont être envoyés sous les ordres du général Juin. Personnage extraordinaire, le général Juin, personnage sans doute un peu sous-estimé de notre histoire contemporaine d'ailleurs. Le général Juin va mener ce contingent français en Italie. Lui avait, par une extraordinaire initiative précoce, il avait lancé une ouverture, une percée vers Rome. Mais le haut état-major allié ne l'entend pas de cette oreille et on va lui imposer en quelque sorte le détour par le Monte Cassino, la bataille du Mont Cassin. Terrible bataille, on est au printemps 1944, le 18 mai 1944, ça y est, le Mont Cassin est renversé. On n'est plus très loin là d'une date que vous connaissez, c'est la date du 6 juin 1944. Il faut vous dire que ça fait 18 mois à l'époque qu'on cherche où l'on va débarquer. Churchill aurait été favorable à un certain nombre de débarquements. Les Américains, avec le président Roosevelt, sont un peu plus réticents et timorés. On va essayer d'orienter les Allemands dans de mauvaises directions. La vérité, c'est que le premier grand débarquement pour la partie française, il va avoir lieu en Normandie. Il va avoir lieu le 6 juin 44, bien entendu, le D-Day, comme disent les Américains. C'est ce que le cinéma a immortalisé sous le nom de jour le plus long.
C'est parti, le jour le plus long, on en parle. Et oui, 6 juin 1944, tout le monde connaît cette date qui a changé le cours de l'histoire. Et Marc, vous allez nous raconter cette journée du 6 juin qui a vu les Alliés débarquer en Normandie.
Allez, trois petits points en amont.
Ça y est, il va revenir en 1812 avec
non,
Napoléon.
Pas du tout. La nomination du général Eisenhower comme patron de ce débarquement. Il y aura plus de 130 000 hommes mobilisés et il est placé à ce poste le 6 décembre 1943. Vous vous rendez compte? 6 décembre 1943 et le débarquement, c'est 6 mois plus tard. Pour organiser ce gigantisme fait d'armes comme jamais l'histoire n'en a vu et peut-être qu'elle n'en reverra. C'est invraisemblable. Alors, étant donné les conditions, on sait qu'il y a les falaises qui se dresseront devant nous, car il n'est pas question d'aborder par les ports. On choisit la stratégie des plages. Petit élément déjà, c'est qu'il y a un individu, je dis cela comme ça, c'est presque péjoratif, mais j'y mets un individu dans le sens noble, parce qu'il est inconnu, il s'appelle Higgins, et aux États-Unis, il s'est battu pour imposer un système de barges. Et ces barges joueront un rôle déterminant. Sans elles, on ne pouvait pas débarquer sur les plages. Alors, tout à l'heure, nous serons à l'intérieur de ces barges et j'essaierai de vous faire vivre ces moments dramatiques où le courage ne suffit pas pour oser s'affranchir du destin. C'est une sorte d'inconscience d'une force patriotique inouïe qui propulse les hommes. Mais il nous faudra donc préparer tout cela avec des opérations sur des sites presque équivalents. On a eu les photos prises par les avions. Et alors, on cherche en Angleterre telle falaise à représenter ça. Alors, ainsi, on pourra faire en sorte de tester la capacité des hommes à monter du côté du tas, du côté... C'est que les plages ont été rebaptisées. Il y a 5 points d'attaque, les Américains d'un côté, Canadiens et Anglais de l'autre. Et notons que les Français seront nichés. Il y en aura 177. Ce sont ceux du commando Kieffer. Alors, forcément... Là, s'il n'y avait que la plage, étant donné le mur de l'Atlantique, la capacité des Allemands à prendre les hommes pour cible, ça ne serait pas suffisant. Il faut donc des attaques aériennes pour préparer le terrain.
Et pour vider aussi la mer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de sous-marins allemands, les U-boats,
ah oui.
Et ces avions c'est de la Royal Air Force, ils servaient aussi à vider la mer des sous-marins.
Et dans la guerre de bluff, car il y en a toujours au sein d'une guerre... Nous avons une opération Fortitude qui est montée quelques semaines auparavant. Et on fait croire aux Allemands que l'on débarquera au Pas-de-Calais. Il faut figer ainsi une grande partie de leurs troupes. Ce qui est incroyable, c'est que Dunlop, marque de pneus, fabrique en caoutchouc des chars, des camions, des voitures. On les peint aux couleurs de l'US Army. Ils sont positionnés. On va jusqu'à faire des traces de fioul sur la mer pour montrer que les barges, qui sont également des barges construites par des accessoiristes de cinéma avec de la toile, eh bien qu'elles soient identifiées comme étant effectivement en préparation puisqu'il y a ces traces de fioul. C'est incroyable. Et le roi d'Angleterre, Eisenhower et Montgomery font même l'effort de se déplacer sur place comme s'ils rendaient visite à des troupes alors que ce ne sont que des fantômes.
Et il y a des comédiens, des acteurs qui viennent des studios de cinéma qui sont envoyés sur différents terrains d'opération pour jouer le rôle de Montgomery, etc., pour faire comme si ces gens-là se déplaçaient. Tout ça est hallucinant. C'est le plus grand bluff jamais imaginé.
Et il y a un espion...
C'est vrai qu'on parle peu de ce...
On a un espion qui est un Catalan, qui se fait appeler Garlo, et qui, lui, est considéré par Hitler comme étant le maître d'espionnage. C'est-à-dire, c'est un double espion. Et il envoie à Hitler les renseignements qui attestent effectivement que ça va se passer dans le Pas-de-Calais. Et quand d'autres informations viennent laissant suggérer que ça pourrait se déployer du côté de la Normandie, il dit « mais non !» Et il est tellement considéré par Hitler qu'il obtiendra même une grande médaille pour le récompenser. Et tout ça forcément crée un tel trouble que l'ensemble de la réception réservée aux Alliés et aux quelques Français sera une réception plutôt fragilisée. D'autant plus fragilisée que Rommel, qui est le responsable du mur de l'Atlantique allemand, qui est là pour vérifier le positionnement des troupes, lui, il n'y croit pas à l'histoire du Pas-de-Calais. Il dit qu'il nous faut nous défier de la Normandie, mais on ne l'écoute pas. Et étant donné cette négligence à l'égard de son intuition, il finit par décider, le 5 juin, de quitter son poste pour se rendre en Allemagne fêter l'anniversaire de son épouse. Vous voyez, ça crée quand même des fabulas incroyables. Revenons à minuit avec les premiers bombardiers qui partent. les parachutistes, et on va en quelque sorte placer la Normandie sous un ciel de bombes. Ce sont des milliers de bombes qui vont s'effondrer. Il y a effectivement pour la nécessité de couler les sous-marins, mais derrière, pour pouvoir prendre à revers et faire croire aussi aux Allemands que l'attaque est une attaque qui se partira de plus loin. Et tout cela déstabilise l'ensemble. Malheureusement, les conditions sont épouvantables. Déjà, on a retardé de 24 heures ce qui devait être le débarquement du 5. Oui. C'est tellement
au pourri.
Départ,
c'était le 1er mai, puis 1er juin, puis finalement 5 juin, et on décale encore à cause du temps.
Voilà. Et là, c'est la dernière possibilité. Parce qu'après, les conditions ne correspondront plus. Alors, on a Eisenhower qui est là, il presse Stagg, c'est l'homme de la météo. Il dit, mais enfin, vous allez me donner une météo qui me corresponde à la possibilité de débarquer. Et à 2h du matin, Stagg envoie un message en disant, écoutez, il y a une sorte de petite accalmie qui est potentielle, il faut y aller demain matin. Et vous avez ces soldats qui sont entassés sur les bateaux, sur les barges depuis plus de 24 heures, le mal de mer, la difficulté de pouvoir se concentrer. Vous savez que c'est la mort qui vous attend. Vous savez qu'il y aura parmi vos camarades et peut-être vous-même, eh bien, le sort qui frappera. Ce sont les prières qui ne cessent de se multiplier. Alors à minuit, vous avez les parachutistes qui tombent, malheureusement, là encore, les vents sont souvent contraires. On a des planeurs aussi qui portent des chars, qui portent des jeeps et qui s'enlisent. Certains se noient car les Allemands, ils avaient pris la précaution de noyer une partie de cette zone normande qui s'est littéralement transformée en marais. Quand ils tombent dans ces marais, les pauvres bougres avec 40 kilos de matériel, vous êtes en plus déséquilibrés. À l'époque, les parachutistes sont des parachutes en cloche et ces parachutes-là ne sont pas comme ceux qui permettent de s'amortir aujourd'hui. Donc ils se retrouvent et ils se noient littéralement. C'est une véritable hécatombe parmi ceux-là. La stratégie est qu'à 6 heures du matin, dès l'aube, on puisse débarquer. Voici la carte telle que Eisenhower a imaginée, on la remet, on l'a vu tout à l'heure. Cette carte nous vaut de placer les hommes dans leur entrée en scène. Vous avez vous avez d'abord sur la plage de l'Utah. Sur cette plage-là, ce seront les premiers à débarquer à 6h30. La chance, c'est qu'il n'y a pas grand monde face à eux. En revanche, juste à côté, eux, ils débarquent à 6h31. C'est la plage d'Obama. Et sur cette plage, on a les barges qui se présentent. Et soudain, puisque les bombardiers ont créé une sorte de nuage de fumée, quand cette fumée se dissipe, les Allemands voient les bateaux à 10 km, et puis les premières barges qui se présentent. Forcément, ils ne bougent pas. Ils attendent que les premiers soldats soient presque sur la plage pour déclencher le tir. 90% de ces premiers hommes meurent. Ils explosent littéralement. Mais derrière, il n'est pas question de lambiner. On doit enchaîner. C'est le nombre qui permettra la submersion. De point en point, pendant 4 heures, ce sera la véritable boucherie, il n'y a pas d'autre mot. Et Robert Capa, le photographe qui débarque sur la deuxième vague, permet d'avoir des images de ces instants qui ne sont plus des instants d'héroïsme, qui sont des instants de démesure où l'homme va au-delà de tout ce qui est possible par rapport au courage.
130 000 hommes britanniques, américains, canadiens, 742 navires, une armada de 4266 navires de transport.
C'était gigantesque.
Gigantesque. Et puis, quel sacrifice.
Il faut vraiment se faire une idée. C'est facile à dire comme ça. Alors, on a les films quand même. Il faut sauver le soldat Ryan, etc., qui permettent de s'en faire une idée. Mais Dites-vous que le 6 juin 2014, c'était pour le 70e anniversaire évidemment du débarquement de Normandie, j'avais eu la chance d'être sur la dernière barge Higgins, encore en fonction aujourd'hui, au départ de 40 ans. On était avec les studios d'Europe 1 qu'on avait installés sur la barge elle-même. Et la personne qui pilotait cette barge, qui était un grand spécialiste, qui connaissait ça par cœur, me disait qu'il ne faut pas oublier qu'à la 5, 6, 7e rotation, parce que les barges question, elles faisaient l'aller-retour entre les grands navires où se trouvaient les soldats et les plages, bien entendu.
Qui sont à 10 km, hein, les grands navires.
Voilà. Et donc, pour être à l'abri des tirs d'artillerie élémentaires, hein, des premiers tirs d'artillerie, eh bien, quand vous descendiez, dit-il, à la 7, 8e rotation, il y avait, on avait du sang jusqu'aux genoux, le sang des camarades dans les barges elles-mêmes. Ça vous donne une idée de l'incroyable.
Les comptes rendus sont épouvantables. Vous avez celui qui vient d'échapper. Il a l'impression de s'en sortir. Il se tourne vers son pote. On dit « Allez, on y va !» Et à ce moment-là, il prend une explosion. C'est la tête de celui qui était à ses côtés, le frère, qui vient d'exploser. Et pour autant, il faut trouver les ressources pour franchir encore la plage.
On ne peut pas parler de tout et de
malheureusement,
beaucoup de témoignages. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de films que vous avez cités, effectivement. Et c'est vraiment, cette émission est un appel à aller en savoir plus.
Bien sûr.
Alors maintenant, on va parler d'une autre bataille, la bataille de Normandie. Je dis une autre bataille, en fait, c'était pas... Maintenant, les Alliés ont débarqué. Mais
oui,
ils ne sont pas en terrain.
Celle-là, en fait.
Voilà, parce que et ils ne sont pas en terrain conquis.
Et non, pas du
c'est
tout.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Évidemment, d'abord, les Allemands avaient construit ce mur de l'Atlantique, dont on a vu qu'il n'avait peut-être pas été quand même très efficace. Rommel n'attendait pas. On a compris pourquoi maintenant. Il n'attendait pas les Alliés à cet endroit. Il n'empêche que les Allemands sont là, ils sont implantés, et qu'Hitler ne va avoir de cesse. Le jour même, on ne l'a pas réveillé. Donc,
oui, faut savoir que la veille, il s'était couché tard. Il a pris un somnifère, et quand on a les premières informations qui arrivent là-bas dans le bunker, Berlin. Personne ne veut réveiller. Et alors il y a Von Rundstedt qui dit « Mais réveillez-le, réveillez-le !» Rundstedt, il dit « Réveillez-le, réveillez-le !» Et personne ne bouge. Ce n'est qu'à 9h qu'enfin il a l'information, et il ne prend la décision de la contre-offensive qu'à 14h30.
Mais il s'est réveillé tard, Hitler, mais ensuite il va se réveiller fort, bien entendu. On essaie de réunir le plus possible de contingents allemands et de les faire remonter vers la Normandie. Ce sera notamment le terrible épisode d'Oradour-sur-Glane, vous savez, avec cette remontée effroyable de la division SS d'Asreich. Ça nous entraînerait dans énormément de précisions, tout ça. Alors, pour parler de la bataille en Normandie.
Oui, racontez-nous,
elle-même.
Racontez-nous.
Comme l'a dit Marc, on a débarqué énormément de matériel. On n'a jamais vu de débarquer, parce que c'est pas le tout de débarquer des hommes, il faut débarquer du matériel.
Oui.
Les chars par centaines. On avait construit 230 caissons qui, une fois coulés, remplis de... Ça, c'est un char Sherman qu'on a là sous les yeux. On avait des caissons qu'on coulait qui permettaient de faire des ports artificiels. Et à partir de ces ports artificiels, on va mettre en œuvre la logistique fantastique des Américains. Parce que ça, il faut reconnaître qu'ils sont les champions toutes catégories dans ce domaine. Donc, ils débarquent toutes sortes de matériaux, de vivres, bien sûr, mais surtout de munitions, etc. Bref. Le problème, c'est que les Allemands ne sont pas partis pour autant. Il va y avoir deux grandes offensives. Une à l'est, qui est menée essentiellement par les Anglais et les Canadiens, sous la houlette de Montgomery. Et on va piétiner du côté de Caen. Ça n'avance pas à Caen. C'est-à-dire que les batteries allemandes sont là, partout. Les Allemands sont en embuscade. Et on s'enlise d'une certaine manière. De même que les Américains, sous la direction de Bradley, s'enlisent de leur côté dans le Cotentin. Ce que n'avait pas suffisamment compris, peut-être, les Alliés, c'est qu'on est dans un terroir de bocage. Ce ne sont pas des plaines, hein, on n'est pas en Arizona, là.
C'est ça.
C'est du bocage, ce sont des haies, des taillis, des futaies. On ne peut pas circuler là-dedans. Il est extrêmement facile de se cacher en Normandie. Les enfants qui jouent à cache-cache le savent très bien.
Et avec ces zones inondées qui augmente la difficulté.
En plus, donc ça ne facilite évidemment pas les choses. Donc on va se lancer dans une espèce de guérilla, mais une guérilla extrêmement meurtrière, bien entendu. Et quand je dis meurtrière, n'oublions pas le sort des populations civiles. Et je parle de ça parce que pendant très longtemps, quand on parlait de cette bataille de Normandie, alors peu à peu quand même, les Américains vont faire la différence dans le Cotentin, et puis on va voir tomber les places allemandes jusqu'à ce que les Allemands se réfugient. Ils sont à 18 000 là, dans la poche de falaise. Et puis, la poche de falaise sera la dernière à tomber le 21 août. Ce qui veut dire quand même que la bataille de Normandie, elle dure du 6 juin au 21 août 1944. Vous voyez, ça n'a pas duré trois jours, hein, cette affaire.
Bon. Et la libération totale de la Manche le 15 août.
Exactement. Mais dites-vous que la première ville libérée, Bayeux, bien entendu.
Oui, Bayeux.
C'est-à-dire qu'entre la première ville libérée au mois de juin et la dernière en novembre, qui sera Strasbourg, vous voyez que chaque ville, quand on dit la libération, on parle de la libération.
On a l'impression que c'est une journée.
Chaque ville a sa date.
Et avec des villes martyrs comme Caen.
Bien sûr.
Caen, c'est l'hécatombe. La ville est détruite aux trois quarts.
Mais
il y a des milliers de morts.
Voilà, bombardement, des milliers de morts. C'est ce que je voulais aborder. Le dernier aspect, c'est l'aspect bombardement. C'est que vous avez les avions américains et anglais. Alors, les Anglais bombardent de façon un peu précise, les Américains de façon très imprécise, car ils ne mettent pas leurs pilotes en danger. Et du coup, ce sont les populations civiles qui souffrent là, 20 000 morts parmi les Normands. Et il a fallu très longtemps pour parler de ça. Moi, qui ai une famille normande, je peux vous dire que pendant très longtemps, c'était un tabou total. Mais maintenant, on commence à parler de ça et de l'extrême souffrance des populations civiles dans cette bataille de Normandie qui a été gagnée par les Alliés et qui a permis quand même de repousser les Allemands. Et à partir de là, ça va être la course vers l'Est, notamment celle de la 2e division blindée du général Leclerc.
Et on en parlera dans la deuxième partie.
Juste un mot, c'est de dire que les résistants qui étaient en prison, dans la prison de Caen, sont fusillés dès le premier jour par les Allemands, simplement en répression, pour qu'ils ne se défilent pas et viennent grossir les troupes qui sont en train de les harceler.
Donc la bataille de Normandie qui a duré plus de trois mois, enfin voilà, beaucoup plus longtemps que prévu. Dans la deuxième partie, on va parler du rôle de la résistance et des maquis. On parlera de la libération de Paris avec le général Leclerc. Et on parlera des tribunaux de la libération. À tout de suite. Retour sur la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre 61, la libération. Alors on a vu le débarquement en Normandie, on a vu la bataille de Normandie. Et maintenant une question pour vous messieurs, quel est le rôle, avant de voir la libération de Paris, quel est le rôle de la résistance et des maquis à ce moment-là?
Alors d'abord c'est le renseignement, c'est indispensable. C'est accueillir pendant toute la guerre
les paras.
Ils tombent à un endroit, il faut aller les chercher, les cacher. Le matériel, par exemple, les radios. Quand vous sautez avec votre parachute, déjà, le barda, il est extrêmement lourd. Donc, il y a les éléments indispensables comme la communication grâce aux radios. Tout ça, c'est parachuté, il faut aller récupérer et cacher. Et puis après, il y a le positionnement, il y a des petites histoires. Il y a un garçon, il était coureur cycliste professionnel, et du côté de Caen, justement, il filoche tous les jours, il s'appelle Guillaume Mercadet. Alors, les Allemands le voient passer, lui ont donné un laissez-passer, puisqu'il a couru le Tour de France. Et en réalité, il repère les uns et les autres, et ce sont des communications qui sont envoyées et qui permettront de bien ciseler les éléments de positionnement des Allemands pour mieux attaquer. Et là, c'est en Normandie, mais c'est un peu partout pareil.
Partout. Il y a des maquis très, très actifs. Je pense au Limousin, par exemple, avec des sabotages considérables. Il ne faut pas oublier que tous ces réseaux qui étaient très indépendants les uns des autres au départ, avec en plus des opinions politiques diverses, tous ces réseaux, peu à peu, ils se sont unifiés et qu'enfin, maintenant, on est sous la houlette générale des FFI. Hein. Le chef des FFI, c'est le général Koenig. Alors, il y a quand même un cas un peu particulier qui est celui des réseaux communistes, puisque les FTP, bien qu'intégrés au FFI, conservent leur identité.
Alors, on fait sauter les chemins de fer aussi, les voies de communication.
Vous voyez, sabotage partout.
Sabotage partout. Mais malheureusement, qui dit sabotage dit aussi de temps en temps tuer des Allemands et donc des répressions.
Avec des otages qui sont pris et qui sont fusillés. C'est absolument horrible tout ça.
Alors ça, c'était pour le rôle de la résistance et des maquis. Avant de voir la libération de Paris, juste une petite parenthèse, parce que lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la bataille de Normandie, il faut rappeler aussi qu'il y avait plusieurs fronts.
Bien sûr. Qui étaient, c'est-à-dire qu'il y a eu notamment, mais alors ça c'est le 15 août, très très important, et tout.
On ne peut pas parler de
qui
tout,
nous
mais
dans le sud de la France, j'espère, vont se dire ah quand même.
C'est
le
débarquement
de Provence, parce qu'on parle toujours du débarquement de Normandie, mais moi qui ai beaucoup travaillé à une époque sur le débarquement de Provence, je peux vous dire que ça a été une opération également incroyable. Et ce 15 août 1944, il a compté d'une certaine manière autant que le 6 juin. Et croyez-moi, pour Hitler, ça a été la plus mauvaise nouvelle de l'année. Hein.
Voilà, ça fait une sorte d'étoffe, si je puis dire. C'est cette réunification des forces qui permettra ensuite d'obtenir la victoire.
Paris libéré. Alors c'est intéressant, Franck, parce qu'initialement, les Alliés n'avaient pas prévu de libérer Paris dans un premier temps.
Mais non, en fait, le général Eisenhower, dont on n'a peut-être pas suffisamment dit à quel point c'était un chef hors du commun, il deviendra plus tard président des États-Unis d'ailleurs, il a mené tout ça de main de maître, c'est l'homme qui donne des décisions précises, courtes, rapides, mais sans s'embarrasser des détails qu'il laisse à tous ses subordonnés. Dieu sait qu'il a une armée de subordonnés, hein, bien sûr.
750 officiers vous d'état-major imaginez... à ses côtés et 6000 hommes, rien que pour son état-major.
Ça vous donne une idée de l'ampleur de la force dont on parle. Et c'est vrai que l'idée, c'est de filer le plus vite possible vers l'Allemagne, d'entrer le plus vite possible en Allemagne, de filer jusqu'au repère, si je puis dire, d'Hitler. Et on ne veut pas s'embarrasser de Paris parce qu'on a le souvenir d'un certain nombre de sièges. Il y en a eu tellement dans l'histoire, mais notamment celui, évidemment, de 1871. Et on se dit que ça va être compliqué d'entrer dans Paris. Sauf que la population de Paris elle-même va s'insurger. Ça, c'est assez magnifique. Tout commence avec une grève des cheminots dès le 10 août. C'est important de signaler cette grève des cheminots. Il faut vous dire que Koenig, dont je vous parlais tout à l'heure, le patron des FFI, Koenig se dit que ce serait bien de voir la capitale s'insurger pour des raisons politiques. Le général de Gaulle y tient beaucoup, lui aussi, parce que nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que les Américains, dans cette affaire, ont l'intention d'installer à Paris un Amgot, un gouvernement. Ils veulent mettre la France dans une espèce de tutelle.
Ils ont même déjà fabriqué la monnaie.
Et les billets de banque, vous imaginez, avec un dollar français. Enfin bon. Donc, il est très important de montrer que la France s'est libérée, que la résistance a joué un rôle, et notamment sa capitale. On a eu quand même l'exemple, le 1er août, de l'insurrection de Varsovie. Et malheureusement, ça a été un contre-exemple parce que les Allemands ont massacré, ont atomisé Varsovie. Ça a été épouvantable. Et on se dit que s'ils recommencent la même chose à Paris, ça risque d'être extrêmement terrible. Le gouverneur à Paris, c'est le général Dietrich von Choltitz qui va jouer un rôle très important. Je vais y revenir dans un instant. Alors, il faut savoir aussi que à l'intérieur de la résistance parisienne, dans les réseaux parisiens, qui sont très nombreux, hein, c'est une ville de résistance, Paris. Mais vous avez plusieurs tendances, et notamment les communistes sous la houlette du colonel Rol-Tanguy et les gaullistes sous la houlette d'un jeune résistant qui va beaucoup faire parler de lui, qui s'appelle Jacques Chaban-Delmas, bien entendu. Et Rol-Tanguy et Chaban-Delmas n'ont pas la même vision. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les gaullistes sont beaucoup plus prudents que les communistes qui voudraient peut-être... Je ne veux pas faire de scandale, mais qui voudrait peut-être profiter de l'occasion pour prendre le pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre des maquis FTP qui ont libéré des poches hein, à travers le territoire vont s'imposer et vont mettre beaucoup de temps à... à accepter l'autorité légale. Voyez,
c'est intéressant parce qu'au moment de la résistance, on en parlera dans la prochaine émission, mais il y a aussi ce mariage entre résistance et effectivement quête de gouvernance.
Exactement, quête de gouvernance, c'est exactement le mot, vous avez parfaitement raison. Bref, 3000 policiers en civil sont venus avec leurs armes de service à la préfecture de police. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais ça chauffe à Paris. Et l'insurrection est tellement vite et bien déclenchée que d'une certaine manière, le général Leclerc a eu un très bon argument à faire valoir lorsqu'il va rencontrer Montgomery. Alors, on a tous vu le film, bien entendu, Paris brûle-t-il, hein, le film tiré du célèbre roman de Dominique Lapierre et Larry Collins. Et on a vu à quel point Leclerc, dans cette affaire, a été décisif. C'est lui qui, avec sa division blindée, sa deuxième DB, va, dans laquelle se trouve un certain Jean Gabin, d'ailleurs, va filer sur Paris... va arriver, vous connaissez bien sûr cette histoire, par la porte d'Orléans, remonter l'avenue qui aujourd'hui porte le nom du général Leclerc, bien sûr, remonter dans Paris.
Ce sont quand même des voix étrangères qui résonnent.
J'allais dire, les tout premiers bataillons, hein, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un régiment espagnol qu'on appelle la Nueve, le 9e, ce sont des Espagnols qui, les premiers, vont se retrouver sur la place de l'Hôtel de Ville et vont libérer Paris. Ça n'est pas négligeable que ce soit ces anciens républicains espagnols qui, en quelque sorte, en retour et en remerciement de ce qu'avaient fait les républicains français au moment de la guerre d'Espagne, viennent libérer Paris de cette façon. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'échanges de tirs. En tout, si on regarde les victimes, hein, il y a eu 901 FFI tué, 900, on va dire 900 résistants. On voit les plaques d'ailleurs que l'on... Vous savez que tous les ans, au 11 novembre, on fleurit ces plaques. 76 soldats de la 2e DB sont morts également dans cette prise de Paris, si je puis dire. 3200 Allemands. Et Hitler au téléphone qui hurle « Paris brûle-t-il ? Paris brûle-t-il ?» Oui. Parce qu'il a ordonné à Scholtitz d'installer des charges d'explosifs devant tous les ponts, sous les ponts, au pied de tous les monuments de Paris, et il veut tout faire sauter. Il ne doit plus y avoir ni Notre-Dame, ni l'Opéra, ni la Tour Eiffel. Tout ça doit brûler un gigantesque incendie qui manifestera la rage du Führer. Et là, il faut rendre hommage à deux hommes, essentiellement au consul général de Suède qui s'appelle Nordling, qui va vraiment se battre pour sauver Paris, mais là je parle d'un point de vue patrimonial, au-delà de la population elle-même, et puis disons-le, le gouverneur allemand von Scholtitz qui refuse d'obéir aux ordres de Hitler, qu'il considère comme féruct, comme fou, et qui va, parce qu'il avait beaucoup aimé Paris sans doute, qui va sauver Paris d'une certaine manière.
Et alors il y a un petit clopin, il est radio allemand, il a reçu l'ordre d'Allemagne, il met des heures avant de transmettre l'ordre de destruction, de le transmettre à von Scholtitz.
On va passer à la deuxième blindée, mais juste avant. Quand même, faites-nous un petit De Gaulle. Paris libéré, Paris martyrisé.
C'est l'après-midi.
Mais oui,
c'est
l'après-midi. 15h30.
25 août 1944
à 15h30.
De Gaulle va descendre les Champs-Élysées.
On va voir l'image, on a vu la photo.
Une immense foule, et puis ensuite il ira à Notre-Dame. Et vous savez que là, il y a cet épisode assez énigmatique mais de la fusillade de Notre-Dame. Et puis le soir, il est à l'Hôtel de Ville, sur la place de l'Hôtel de Ville.
Et
Paris Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, libéré par l'armée de la France. Et c'est très important.
On pourra dire qu'on y était.
On pourra dire qu'on y était.
Paris. Il tient à ces mots pour bien montrer que la France s'est battue jusqu'au bout.
On a bien compris.
Et que c'était des imposteurs, dont à Vichy qui tenait le pays.
Paris brûle-t-il ? Non. La deuxième blindée. Je me tourne vers vous. Mm-hmm. Alors, cette deuxième DB.
Bien, Leclerc.
Leclerc, le
personnage
général Leclerc.
Extraordinaire, Leclerc, avec sa petite baguette.
Philippe Leclerc de haute cloque.
Voilà.
On va voir sa photo.
On n'a pas le temps de faire un portrait de Leclerc, mais non, il le mériterait. En revanche, c'est un homme qui galvanise les siens. Vous voyez cette prestance.
Oui.
Rien ne l'arrête. Sa stratégie à la Bonaparte, c'est-à-dire on fonce, on fonce, on fonce, on détourne. Pas question de perdre de temps. C'est en surprenant l'ennemi qu'on arrive à le vaincre. Alors, il y a eu un premier épisode où il s'est distingué. Oh, c'est dans une oasis en Afrique, en Libye. Elle était tenue, cette oasis de Koufra, par les Italiens. C'est un petit groupuscule, mais c'est symbolique. Il faut faire tomber ce poids. Et avec ces hommes, là, on est en 1941, c'est une équipe de briquet de broc. Quand je dis Bonaparte, Bonaparte, au départ, quand il parle en Italie, c'est pareil. C'est avec des dépenaillés, vous voyez, on est mal équipé.
Une armée beaucoup plus nombreuse.
Oui, mais je veux dire par là, c'est que là, il a un petit groupe qui est mal équipé. Et pour autant, il n'est pas question de laisser échapper ce point, je dis symbolique, mais un peu stratégique quand même. Et là, il encercle et les Italiens finissent par envoyer une jeep avec deux représentants pour envisager une reddition, mais sous leurs conditions. Ils trouvent que ça tarde trop, ils montent dans la jeep, ils disent « Conduisez-moi à votre chef » et ils ordonnent la reddition. Et c'est là que le lendemain, on présente les couleurs et ce général Leclerc, vous l'avez vu, alors à l'époque, il n'est que colonel, hein. Il avait arraché les galons. Ses galons, il en avait placé un de plus. Il estimait que commandant n'était pas assez. Pour être crédible, il fallait être colonel. Donc, il s'est auto-promu.
De mars 41, oui, il était colonel.
Et alors là, il dit, nous sommes en marche. Nous ne nous arrêterons plus dorénavant que le drapeau français flottant sur la cathédrale de Strasbourg.
C'est ce qu'on appelle
le fameux serment de Koufra. Et il aura avec lui des hommes qui l'accompagneront durant cette longue percée qui l'est conduite à Strasbourg.
Et on va lire ici, jurer de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, voilà, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Serment de Couffrin.
Voilà, ils prêtent tous serment. Et il y en a qui sont là, avec lui, et qui se pressent aux alentours de Strasbourg. Un personnage joue un rôle essentiel, c'est le colonel Massu. Il se fera connaître bien des années plus tard, dans différents épisodes de l'histoire. Mais il joue un rôle déterminant. Il obéit à Leclerc. Il faut chercher un coin pour s'infiltrer, traverser les Vosges. On va prendre des sentiers buissonniers, si je puis dire, mais il trouve le point faible et on contourne les Allemands. Ainsi, on pourra déferler sur Strasbourg. Et Strasbourg, il faut le prendre par un pont, le pont de Kerl. Mais comment se rendre à ce pont? Parce que l'effectif n'est pas assez important par rapport aux troupes allemandes qui tiennent la ville. Et là, on a un homme de 51 ans, un personnage qui est dans la résistance et qui va les accompagner. Il se dresse, il s'appelle Flegg, et il est devant les chars. Il les fait passer par tous les recoins. Et c'est ainsi que les Strasbourgeois, qui ne connaissent pas ce qui est en train de se dérouler, qui sont dans leur quotidien, dans les tramways, aperçoit quoi? Eh bien, soudain, des colonnes de chars qui remontent la ville, qui vont jusqu'à la Kommandantur, où on finira par arrêter le général allemand. Malheureusement, Flegg est tué juste devant le pont qu'on n'arrive pas à prendre. Et puis, il y a également un jeune maréchal des logis. Il a 22 ans. Il s'appelle Zimmer. Il est parti d'à côté de Strasbourg. Il a fait toute une campagne. Il est dans un char et un obus vient faucher le char. Il meurt à 22 ans, à 10 kilomètres de ses parents, alors qu'il voyait déjà le moment où il allait pouvoir les serrer dans ses bras après 4 ans de guerre.
Merci beaucoup Marc. J'aime bien comment vous racontez, comme Franck aussi, hein, toujours avec émotion et passion. Et cette épopée de la deuxième DB, voilà, il faut encore lire jusqu'où elle va, jusqu'au bout. Voilà, on ne peut pas tout raconter. Messieurs, avant de terminer quand même, on va parler un peu des tribunaux de la Libération. Parce que la Libération, c'est la liesse, c'est la fête, c'est la joie, mais pas pour tout le monde, mon cher Franck.
Non, évidemment.
Il y en a qui vont devoir payer.
Mais c'est-à-dire qu'il y a ceux qui étaient dans le bon camp. Alors, disons, plus exactement, il y a la partie des gens qui sont résistants. Beaucoup de résistants aussi de la dernière heure, se sont réveillés un petit peu tard en 44. Enfin, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il y a une immense partie de la population qui, elle, a attendu. Elle a subi l'occupation. Oui. Elle a fait parfois de petits actes héroïques, mais ils ne font pas partie au sens propre des résistants.
Déjà parce qu'il faut manger au quotidien.
Bah exactement. Oui.
Donc vous êtes obligé d'aller bosser, vous n'avez pas le temps, hein. Vous ne connaissez pas les réseaux de résistants.
Et puis vous avez évidemment ceux qui ont purement et simplement collaboré. Et cela, bien entendu, c'est l'heure des comptes.
Alors c'est-à-dire, comment ça se passe? Ces tribunaux de la Libération.
C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est la chose à retenir, c'est que vous avez des jugements expéditifs qui sont organisés n'importe comment,
voilà, dans les coins de rue,
dans les quartiers, dans les coins de rue. Bon, ça c'est ce qu'il y a de plus haïssable dans toutes les guerres civiles, hein. C'est vraiment la chose horrible, c'est-à-dire que les gens, sans aucune, qui n'ont aucun titre à le faire, se mettent à juger les autres, à les exécuter quasiment.
Et dans l'époque où on est dans la dénonciation, ce que nous vivons aujourd'hui, là vous avez envie de vous venger d'un voisin, vous avez une fille qui vous a pas regardé, eh bien elle a couché avec les boches. Et à ce moment-là, elle va être tondue.
Ah oui, on va les tondre, toutes ces femmes qui avaient couché avec des Allemands. Il y en a eu énormément, bien entendu. Chaque histoire est un drame humain.
Il y a beaucoup d'Allemands qui ont couché avec les femmes.
C'est un règlement de compte.
Oui, oui, il y a des petits...
Mais j'aime bien le dire dans ce sens-là.
Oui, oui, et puis il y a
j'ai dit qu'il y a beaucoup d'Allemands qui ont couché avec les femmes.
Oui, et puis il y a des petits gamins...
J'aime bien le dire dans ce sens-là.
Et puis il y a des petits gamins qui sont nés de ces unions. Et vous imaginez quel sera leur avenir.
Les garçons, il nous reste 2 minutes pour terminer.
Juste, alors. Et puis ensuite, il y a les tribunaux constitué à partir du moment où le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui existe depuis le 3 juin, on a oublié de le dire ça, a remplacé donc ce Conseil national de la résistance. On parlera la fois prochaine du programme du CNR parce qu'il va déterminer la politique de la 4e République.
Conseil national de la résistance, passionnant.
À partir de là, il y a des tribunaux qui, eux, sont des tribunaux légaux qui vont juger et qui vont condamner. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a cru longtemps qu'il y avait eu des masses de personnes épurées, comme on disait. Hein, c'est l'épuration. On a pensé même, le général de Gaulle lui-même a cru qu'il y en avait eu 105 000 au moment de la libération. En fait, c'est moins de 9 000 personnes. Ça, vous me direz, c'est 9 000 de trop. Mais d'ailleurs, parmi ces 9 000, il y avait beaucoup de gens qui étaient épouvantables, là aussi, hein, disons.
Oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres.
En tout cas, voilà, 9 000 personnes. Et puis ensuite, il y a eu 97 000 condamnations, alors cette fois légales. Et sur ces 97 000 condamnations, 1 500 condamnations à mort. Voilà, pour rétablir les faits tels qu'ils sont.
Et dans les condamnations officielles, une femme comme Arletty qui n'avait rien fait de bien mal et qui est considérée comme...
Il y en a beaucoup.
Et puis surtout, on parle toujours de Robert Brasillach.
Dernier mot, les gars, messieurs. Bien sûr. Le Robert, oui, absolument. On va faire une petite fiche de révision pour terminer cette émission. Je vous ai senti très, très débordant sur cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Petite fiche de révision. Alors que la Corse a retrouvé la liberté depuis octobre 1943, une gigantesque opération amphibie des Alliés transforme la Normandie en champ de bataille. Ensuite, partout sur le territoire, les résistants des forces françaises de l'intérieur préparent le terrain pour l'avancée alliée, notamment à Paris. Et puis à la tête de la 2e division blindée, le général Leclerc se taille un triomphe et devient un symbole. Vos livres, Marc Menon, Histoire des commandos de Pierre Montagnon aux éditions Big Magnon.
Ça vous permet de comprendre, et entre autres, le commando Kieffer avec ses 177 soldats français qui débarquent dans la première vague sur Omaha Beach.
Super. Et puis, Franck Ferrand, vous avez parlé de la Nouvelle 24.
Ben oui, justement, je voulais vous parler de ce livre sur la Nueve, puisque Marc l'a dit tout à l'heure, ce sont des Espagnols qui les tout premiers, ça ne veut pas dire qu'ils étaient les seuls, hein, loin de là, mais ce sont les tout premiers à être entrés dans Paris libéré.
Merci beaucoup. Aux éditions du Cherche Midi, fin de cette émission. La semaine prochaine, on va parler de la naissance de la 4e République. On parlera du Conseil national de la Résistance. Conseil national de la Résistance, c'est comme on va revenir un peu sur le fait qu'il y avait de la résistance, mais aussi une quête de gouvernance, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Franck Ferrand. Merci, Marc Menon. À la semaine prochaine.